Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut de Liberté pour un nouveau délit d'opinion. Dans cette émission, nous allons parler de Javier Milei, le
Et de
président
l'Argentine.
argentin. Donc, on en avait parlé déjà lorsqu'il avait été élu en décembre 2023. On en disait déjà plutôt du bien, ou en tout cas, on en disait peu de mal. C'est-à-dire
On disait surtout que son plan allait réussir.
que son plan allait réussir, que voilà, c'était un individu qui avait l'air assez farfelu et tout à fait original, mais que peut-être que c'était nécessaire pour redresser un
C'est-à-dire,
pays qui allait
peut-être
aussi
peut-on
loin.
se poser la question, à force d'élire des gens sérieux en France, comme on le voit tous les jours à l'Assemblée et tout, on va de désastre en désastre.
Oui.
Faudrait peut-être élire des plaisantins, non?
Tout à fait. Les gens raisonnables en apparence le sont pas forcément dans l'exercice des fonctions. Donc peut-être que parfois, effectivement, avoir quelqu'un d'un peu décalé, c'est pas toujours une mauvaise idée. Par ailleurs, il faut aussi rappeler que Javier Milei, alors il a fait des émissions de télévision, etc., où volontairement, peut-être aussi pour faire le buzz, il était sans doute par moments dans la provocation, et que ensuite il a commencé à être un petit peu plus sérieux quand il s'est mis dans la politique.
Mais il était professeur d'économie au départ, rien vrai.
Il était
Un
professeur
type qui avait
d'économie, bien
vraiment.
sûr, mais c'est un type avec une très grande culture, qui écoute régulièrement des opéras, etc. Enfin voilà, c'est quelqu'un de sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Et ça, c'est un type de modèle qu'on a beaucoup perdu. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse qu'on a. C'est on a des gens pas sérieux qui se prennent très très au sérieux.
Oui, et qui entendent qu'on les prenne au sérieux.
Absolument. Je rappelle, en décembre, c'était même en novembre 2023, il remporte l'élection présidentielle avec près de 56% des voix.
À la surprise générale.
À la surprise générale, alors c'est vrai que les sondages montaient beaucoup sur la fin, mais le donnaient quand même perdant, et alors de pas grand-chose, mais c'est vrai qu'il a quand même un peu surpris par rapport au sondage. À ce moment-là, l'Argentine dont il hérite est en ruine totale. Je rappelle quelques chiffres. Depuis 2011, le PIB était en train de stagner, l'inflation était à plus de 200% annuel au moment où il arrive au pouvoir, en décembre 2023. La dette publique à ce moment-là dépasse 85% du PIB, d'après le FMI. La pauvreté touche plus de 40% de la population et le chômage avoisine les
Alors que
7%.
c'est le pays qui est le plus riche du monde, c'est-à-dire qu'ils ont tout, ils ont l'agriculture, ils ont l'industrie, ils ont des matières premières, ils ont du pétrole, ils ont du gaz. Donc si vous voulez, c'était le deuxième niveau de vie du monde en 1945, et à la suite de 70 ans de crétinerie, eh bien ils se retrouvent quasiment en état des pays sous-développés les plus pauvres. Donc il
Complètement.
faut quand même un talent spécial pour prendre un pays qui est naturellement riche, avec une population qui était bien éduquée, et tout ça, et voilà, il l'amenait à la faillite. Mais par contre, les gens qui étaient au pouvoir se sont beaucoup enrichis.
Oui, ils sont bien gavés, effectivement. Et alors à ce moment-là, quand il arrive, il a un programme qui tranche avec des décennies de socialisme et d'étatisme. Avec son fameux plan Motosierra pour tronçonneuse. Donc il promet à ce moment-là de dollariser l'économie, puisque le gros hic de l'économie argentine, c'est le peso, c'est l'inflation à 200%, etc. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, utilise le dollar, en fait, sous le manteau. Mais donc on a une espèce d'énorme économie parallèle qui n'est pas officielle, qui fonctionne parce que voilà, parce que on a une monnaie qui fonctionne et qu'on peut stocker en attendant le lendemain, ce qui n'est pas le cas avec le peso. À ce moment-là, il veut dollariser l'économie en remplaçant complètement le peso par le dollar. Il veut
Ça, c'était pas une bonne idée, mais c'est
complètement,
pas
et
grave, mais il
d'ailleurs
l'a pas
au
fait.
final il l'a pas fait. Il promet de fermer la banque centrale pour stopper net l'inflation. Alors l'inflation a reculé, mais il a pas fermé la banque centrale. Le nombre de ministères doit tomber de 18 à 9. Il l'a fait. Les dépenses publiques et les subventions allaient être taillées au couteau dès les premiers mois pour atteindre
À la
l'équilibre
tronçonneuse.
oui, tout à
À la
fait,
tronçonneuse,
à
parce
la
qu'ils se promenaient
tronçonneuse,
partout avec une
effectivement.
tronçonneuse.
Tout à fait. Il s'engage à privatiser les grandes entreprises d'État comme Aerolíneas et YPF. YPF, c'est du pétrolier. Le marché du travail deviendrait plus souple avec des licenciements facilités, des périodes d'essai allongées, des contrôles sur les prix et l'échange allait sauter. Sur le plan extérieur, Milei voulait s'aligner complètement sur la politique américaine tout en rompant avec la Chine et les gouvernements de gauche sud-américains. Ce plan visait
Il
à
y en a de moins en
réduire.
moins.
Oui, tout à fait. Absolument, il y a un vrai mouvement sud-américain, enfin
il reste
Amérique
le Brésil,
latine.
Mais il y a des élections en octobre.
Absolument. Ce plan visait à réduire l'État au minimum et à libérer donc les forces du marché. Alors on va voir s'il y est parvenu. J'ai déjà donné quelques éléments de réponse. Donc globalement, il a quand même appliqué son programme. On pourrait dire qu'il l'a appliqué à peu près aux deux tiers ou aux trois quarts. Il a taillé dans les dépenses publiques dès les premiers mois. Il a obtenu d'ailleurs un surplus fiscal de 0,3% du PIB dès 2024, donc dès qu'il est arrivé au pouvoir, hein, au bout d'un an d'exercice, objectif qu'il avait promis donc pour rééquilibrer les comptes. Les ministères sont passés de 18 à 9, comme je l'ai dit, les subventions à l'énergie et au transport ont disparu, et 30 000 postes dans l'administration ont été supprimés à la fin 2024. Donc du début à la fin 2024. Ensuite, il y a eu toute une vague de dérégulation avec la loi Bassès de 2024, puis sa version élargie en 2026, qui ont aboli plus de 13 500 normes. Je ne sais pas si vous imaginez, 13 500 normes déjà.
Oh bah c'est ce qu'on fait dans l'Europe en une journée, ça. C'est, il n'y a pas de souci à se faire. Nous, si on veut tailler dans les normes, ce n'est pas ça qui manque. Hein.
Non, c'est clair. Libéraliser les prix, simplifier le marché du travail avec des périodes d'essai allongées, des licenciements facilités pour les PME, même la possibilité de journée jusqu'à 12 heures ou de salaire en devises étrangères. Des privatisations ont progressé, donc Aerolíneas, une partie de YPF aussi ont changé de main en 2025 et 2026, rapportant au passage 8 milliards de dollars à l'État. Sur le plan international, l'alignement avec les États-Unis s'est concrétisé par des accords commerciaux. Il y a même eu un accord de swap à la fin de l'année 2025 de 20 milliards de dollars, tandis que les liens avec la Chine, eux, ont quand même été maintenus. C'est la preuve d'un certain pragmatisme de Javier Milei, parce que par idéologie, au début, il se dit la Chine, c'est des communistes, je veux pas parler avec
eux. Ensuite, ils sont les Chinois. Les Chinois leur disent, mais vous savez, il faut les faire des ponts, des routes, des hôpitaux, des aéroports. On sait faire, les Américains savent pas. Alors il s'est dit, ah oui, et puis on peut vous les financer. On dit, les Chinois, il dit, ah bon.
Ouais. Et puis les Argentins, ils exportent aussi du soja et du lithium que les Chinois sont contents d'acheter. Donc là aussi, c'est sympa d'avoir des partenaires commerciaux quand même.
Oui, 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 tout à fait.
Voilà. Donc, il y a deux promesses phares qu'on n'a pas forcément vu le jour. C'est d'une part la dollarisation, et puis
les États-Unis deviennent fous sur leur propre monnaie, je vois pas pourquoi il faudrait se dollariser. Vous n'allez pas vous dollariser sur le dollar de Zimbabwe, au moment où ils commencent à faire marcher la machine à billets. Donc ça, c'était une idiotie dès le départ. Je suis content qu'il ne l'ait pas faite. Et la deuxième, c'était quoi ?
La fermeture de la Banque centrale.
Ça, c'était une vieille idée de Milton Friedman. C'est pas indispensable, mais il faut les ramener à leur travail normal, qui est d'aller vérifier les comptes de la sous-préfecture de Tulle. Il n'y a pas de raison que les gens qui gèrent la Banque centrale soient des génies, quoi. Il faut des gens modestes et compétents.
Donc vous voyez un rôle de banque centrale qui ressemblerait un peu à celui d'une cour des comptes, quoi.
La banque centrale, oui, c'est pas difficile. C'est d'abord, elle doit opérer dans un monde dans lequel le déficit budgétaire est interdit,
oui,
de façon constitutionnelle, comme ça se passe en Suisse maintenant, comme ça se passe en Argentine aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison que la banque centrale soit forcée d'imprimer des billets pour financer des dépenses qui n'ont pas été votées. Et donc dès ce moment-là, si vous voulez, la seule chose qu'elle a à faire, c'est à vérifier que y a quelques réserves qui traînent dans la banque centrale de change au cas où il y aurait des trous, et aussi que les banques commerciales se font pas n'importe quoi. Donc on vérifie qu'ils ont vraiment 12 fois 10 à 12% de fonds propres par leur prêt, et puis c'est tout, quoi. Donc banque centrale, c'est très facile si les politiques sont raisonnables, quoi.
Oui.
Il n'y a pas de raison de les surpayer, d'ailleurs. Ils sont tous surpayés, quoi.
Oui. Et d'ailleurs, il a quand même réussi à être très raisonnable très rapidement d'un point de vue budgétaire. C'est-à-dire que, alors, déjà, dans un premier temps, il dévalue le peso de 50% quand il arrive au pouvoir. Il impose des coupes drastiques, donc réduction des ministères de 10 à, de
alors,
18 à 9 déjà.
Alors, il dévalue de 50%, mais vous aviez un cours officiel du peso, qui était celui de la banque.
Qui était complètement bidouillé.
Et puis vous aviez le marché noir, qui avait strictement rien à voir. Donc il a mis le niveau du peso au niveau du marché noir, et comme ça, il n'y a plus de marché
absolument,
noir.
Absolument, c'est ça. C'est complètement ça. C'est-à-dire que le cours officiel du peso était complètement bidouillé. Sur le marché noir, le peso coûtait deux fois moins cher, hein, exprimé en dollars. Et donc, effectivement, il l'a mis au prix de marché, finalement.
Au prix de marché. Il a dit, bon, arrêtons ces bêtises. Et donc, nous n'avons qu'un cours du peso. C'est celui que Le tireur de chaussures vous donne, quoi. C'est d'abord, ouais. Voilà.
Directement, il fait tout un tas de dérégulations. Donc, il abolit le contrôle des loyers, ce qui fait d'ailleurs bondir l'offre locative de plus de 200% à Buenos Aires, et ce qui fait aussi chuter le prix des loyers. C'est-à-dire que c'est quand même
c'est
aussi
terrifiant.
Comment dire, une expérimentation très intéressante de dérégulation des loyers, où justement on plafonne des loyers pour espérer qu'ils ne soient pas trop chers. Mais
c'est ce que
en réalité,
Paris a
derrière,
fait. Hein.
Oui, c'est ce
Paris
que Paris
a fait,
fait,
une...
bien sûr.
Et j'ai vu qu'il y avait toute une série de gens qui se plaignaient que Rachida Dati voulait arrêter le blocage des loyers à Paris. Mm-hmm. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voté pour elle.
Oui.
Ça prouve que les Français ont des gros problèmes à voter pour des gens intelligents, parce que quand
oui,
même,
particulièrement les Parisiens.
Comme ils ne préconisent que des mesures stupides, maintenir le blocage des loyers, c'est assurer que votre fils ne trouve pas d'appartement à Paris. Quoi. C'est,
oui.
C'est une bêtise.
Oui, mais on peut espérer soi-même en bénéficier. Ou bénéficier.
Mais si on a un appartement, on en
social.
Bénéficie, parce qu'à ce moment-là, donc si vous voulez, c'est une fois de plus, les Français adorent ce que j'appelle... les enrichissements sans cause. C'est-à-dire que j'ai un loyer et je demande au gouvernement de me le baisser de façon à ce que je puisse voler mon propriétaire. Mmh. Quoi.
Ouais.
Ils trouvent ça très, 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 très bien. Mais non, c'est très, 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 très con.
Absolument. Et alors, évidemment, le gros problème de l'Argentine, encore aujourd'hui, c'est l'inflation. Quand Milei arrive, il y a plus de 200% d'inflation annuelle. Aujourd'hui, fin 2025, début 2026, on est à peu près à 30% d'inflation annuelle. Donc, c'est une réduction drastique, mais qui reste quand même extrêmement importante dans les standards internationaux, quoi.
Mais la monnaie baisse, a du concurrence, j'imagine. Le taux de change baisse parce que il y a plus de... Ben ça prend du temps, parce que vous avez quand même beaucoup de monnaie imprimée, donc il faut d'abord du temps avant qu'elle soit nettoyée. Et puis, il faut changer la psychologie des gens, c'est ça la difficulté. C'est à partir du moment, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle, en termes économiques, c'est ce qu'on appelle l'ancrage des attentes inflationnistes. Mmh. Bon, ben l'ancrage des attentes inflationnistes, c'est pas la première fois que les Argentins voit un gouvernement dire « je vais faire baisser l'inflation », la faire baisser, puis à la première difficulté, puis remettre en route la planche à billets, et ça repart à 200%. Quoi.
Donc, ouais.
Alors ce qui se passe aussi beaucoup en Argentine, c'est que tous les gens qui ont de l'argent en Argentine, ben, ils ne l'ont pas en Argentine.
Ouais.
Ils l'ont à Miami.
Oui, alors il y a aussi le phénomène, ça je voulais en parler un petit peu plus tard, mais on peut en parler maintenant, c'est le phénomène du cash sous le matelas. C'est-à-dire que en fait, l'équivalent de l'INSEE en Argentine estime qu'il y a entre 250 et 271 milliards de dollars, c'est-à-dire 6 fois les réserves nettes de la Banque centrale, alors cachées sous le matelas, c'est une
expression. C'est comme en Inde, si vous voulez. En Inde, c'est en or, mais quand vous n'avez pas confiance dans la monnaie, ben vous collez dans la monnaie, soit du pays d'à côté, c'est ce qu'on faisait autrefois avec le franc suisse. C'était soit avec de l'or.
Et là, en l'occurrence, avec du dollar.
Quoi. Avec du dollar. Mmh. Mais moi, je sais que quand vous allez à Miami, par exemple, ce qu'on fait souvent avec Gafcal, bah, vous vous rendez compte que Miami, c'est la place financière de l'Amérique latine. C'est là où les latino-américains ont tous leur fric. Et c'est là qu'ils font leurs investissements de Miami vers leur pays. Quoi. Mmh. Donc, bah, voilà, ça, c'est une réalité. À partir du moment où vous avez détruit la monnaie, il faut un certain temps pour que les gens reprennent confiance petit à petit dans leur monnaie. Quoi.
Ouais. Complètement. Et donc l'idée, c'est de faire des lois d'amnistie fiscale, c'est-à-dire que dire aux gens vous pouvez remettre vos dollars dans l'économie réelle sans craindre de vous faire rattraper par la patrouille. Donc, il avait déjà fait un premier plan comme cela en 2025, qui avait déjà ramené plus de 20 milliards de dollars. Et là, il a refait une nouvelle loi, donc là en début janvier 2026, votée au Congrès, qui va encore étendre ce phénomène.
Il a la majorité au Congrès maintenant.
Oui, il est à la majorité, oui, tout à fait.
Parce qu'ils avaient fait des élections l'été dernier, je crois, parce qu'au départ, il avait qu'une minorité, il avait besoin d'un autre parti.
Oui, tout à fait. Et il a
gagné au deuxième. Donc, si je veux dire, on retrouve le même phénomène qu'avec Madame Thatcher, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui fait vraiment le boulot, le peuple vote pour lui, quand même.
Oui, et puis c'est aussi le fait que il a été élu pour faire quelque chose, que il a pas eu l'occasion de tout faire comme il voulait.
Il a eu plein de blocages
et donc le peuple argentin lui a laissé l'occasion d'aller au bout de ses idées quoi, et de vraiment appliquer son programme jusqu'au bout. Donc ça c'est assez appréciable. Et d'ailleurs, il avait même gagné dans l'état de Buenos Aires, ce qui n'était pas forcément évident parce que c'est
plutôt, là où il y avait tous les péronistes et voilà. Tous les fonctionnaires.
Tout à fait. Et il a gagné même là-bas. Donc c'est vraiment un gros succès électoral qui n'était pas forcément certain. En plus de ça, il a évité de pas grand-chose une petite récession technique à la fin de l'année 2025. Donc c'est évidemment ses opposants n'attendaient que ça.
La croissance est autour de 4%, ce qui est pas mal.
C'est ça, 4% et sur 2 années, c'est-à-dire que c'est 4% en 2025, 4% aussi a priori d'après le FMI. Qu'on prévoit en 2026. Donc oui, c'est franchement des bons résultats. En plus de ça, il y avait une. Alors, les 4% de 2025 peuvent s'expliquer par une récession en 2024, mais sinon, franchement, c'est plutôt des bons résultats.
Ce qui est amusant, c'est que le FMI qui disait que ça allait pas marcher, maintenant ils disent que c'est une stabilisation remarquable.
Oui. Et ce que je trouve assez intéressant aussi, si on part juste des chiffres, etc., c'est le fait que on avait commenté quand il avait été élu, Milei se dit lui-même libertarien. En tout cas, il se disait libertarien. Et alors, chez les libertariens, il y a deux grands courants pour grossir le trait. C'est d'une part les anarcho-capitalistes. Alors, eux, ils veulent juste pas d'État du tout. Et puis, il y a les minarchistes. Eux, ils sont pas contre l'existence d'un État. En revanche, ils veulent que l'État garde ses fonctions vraiment minimales.
Alors là, je peux vous arrêter tout de suite.
Hein. Oui.
En France, on est minarchiste parce que l'État régalien, il fait 3% du budget. Mmh. Les transferts sociaux en France, ça fait 33%. Donc, si vous voulez, pour ce qui est d'un État, on a un État aujourd'hui en France qui est complètement à l'os. Mmh. Et les transferts sociaux qui sont complètement démesurés.
Oui.
Donc, on peut dire que les gars qui nous gouvernent sont des minarchistes, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas à l'État, mais à toutes les cambouilles, tous les trucs dans lesquels ils veulent mettre leurs mains pour toucher du pognon. Donc, je dis ça en plaisantant, mais quand vous voyez qu'en France aujourd'hui, l'État régalien n'est plus qu'à 3 ou 4% du PIB, vous dites, mais on est complètement cinglés.
Oui.
C'est complètement ça. L'ordre, si les gens me disent, mais où va notre pognon? Je ne sais pas où il va, s'il va dans les transferts sociaux. Mais 3 ou 4% du budget à l'État régalien, c'est grotesque. Mmh. C'est-à-dire que l'État régalien ne peut pas fonctionner avec le budget.
Oui, on voit bien qu'on a un État
donc,
qui veut
tuer
être
l'État
là
français
partout,
pour permettre à l'État européen de naître.
Oui, d'assurer les fonctions que l'État français n'est pas en capacité d'assumer.
Comme par exemple la défense.
La défense, ouais, de plus en plus. Ouais.
Et le contrôle des frontières.
Et on doit compter même pas sur nos gouvernants, mais sur nos propres industriels pour conserver cette souveraineté.
Parce que les industriels Total ou Dassault disent si ça vous fait rien, nous.
Voilà, exactement. Là, c'est vraiment grotesque par rapport au SCAF, le projet d'avion franco-allemand. C'est. Comment dire.
On amène tout, ils prennent 50%.
Ouais, et Macron veut absolument que ça se fasse, et le patron de Dassault dit non, mais en fait, on va pas partager comme ça gratuitement des technologies, ça va pas quoi. Donc, on compte sur nos propres industriels pour conserver quelques miettes de souveraineté, quoi. C'est assez dingue. Mais ce que je trouve assez intéressant avec Milei, c'est que il est arrivé en libertarien, et au final, je trouve que dans la manière de gouverner, il est plutôt libéral que libertarien.
Ça. C'est-à-dire que dès qu'un type arrive au pouvoir, il se rend compte que ne pas avoir quelqu'un qui a le monopole de la violence légitime pour mettre les brigands en prison, c'est quand même très con. Mm-hmm. Donc il a besoin d'une police, de là il se dit j'ai peut-être besoin d'une armée, et puis j'ai peut-être besoin aussi de contrôle aux frontières. Donc vous voyez, petit à petit il se rend compte que le FADA, le Rosbar, là, si vous voulez, vous avez l'impression que ses disciples sont tous dans un sous-sol, dans la maison de leurs parents, en train de regarder des écrans et qu'ils n'ont jamais été dans la vraie vie. Quoi.
C'est... Ah, complètement.
Bah, dès le moment où vous arrivez dans la vraie vie, vous vous rendez compte que oui, il y a des...
Bah, Milley est lui-même un grand lecteur de Murray Rothbard.
Ouais. Mais qui est très logique. Hein.
Oui, bien sûr. Mais c'est encore une fois, c'est aussi... Comment dire, la construction intellectuelle d'un côté, et puis après,
assurer des vraies fonctions. Et tout, c'est des platoniciens. C'est-à-dire qu'ils bâtissent un truc, ça serait bien si ça marchait, mais manque.
C'est ça.
Tandis que pour gouverner, il faut être un peu aristotélicien et puis être pragmatique.
Complètement. Et puis il y a aussi un autre grand auteur des libertariens de ces dernières années, qui est Hans Hermann Hoppe, qui aussi reprochait à Milei de ne pas être allé assez loin. Et pareil, Milei, en réponse, je trouve, disait quelque chose qui est tout à fait juste, c'est que Hoppe utilise le sophisme de la perfection. C'est-à-dire qu'à chaque fois...
Comme le communisme.
Mais comme, voilà, comme plein de...
C'est le platonicien.
Comme les communistes, comme les fascistes, comme certains libertariens, voilà. C'est l'idée, on va jamais assez loin dans la perfection, parce que moi, mon idéologie, c'est comme ça, et tant qu'on n'aura pas appliqué 100% de mon idéologie, on sera jamais allé assez loin, quoi.
Bah, c'est exactement le problème avec les communistes, c'est qu'il a tué 100 millions de personnes. Si on avait tué 200 millions, ils auraient réussi, quoi.
Ouais,
on serait enfin, on connaîtrait le bonheur.
C'est un peu ça. Alors au moins, c'est sûr, les libertariens ont commis beaucoup moins de crimes à cet égard.
Parce qu'ils n'en ont pas eu l'occasion. Hein. si vous leur aviez donné l'occasion, ils auraient tué tout pareil. Hein.
Parfois, effectivement, on peut se demander exactement ce que ça donnerait. Typiquement, quelqu'un comme Hans Hermann Hoppe, lui, il a des... Enfin, j'ai pas lu Hoppe dans le détail, mais lui, ses idées, c'est de faire des micro-communautés, quoi. Alors, avec un droit complètement... dérégulé, évidemment. Et alors là, je me pose juste la question, qu'est-ce qui se passe quand il y a une communauté avec que des types qui savent très bien tirer à la R15, et puis juste à côté une communauté qui sait pas forcément le faire. J'ai un peu l'impression qu'il y aura un peu des guerres dans tous les sens.
Le problème, si vous voulez, d'un droit qui se fait au fur et à mesure, c'est comme le droit international, si vous voulez, c'est une idée qui est intéressante, mais manque de peau, c'est qui applique le droit. Qui a le droit de taper sur les gars qui respectent pas le contrat?
Tout à fait.
Ben, on en arrive toujours à un moment, il faut que quelqu'un ait, donc, qu'il y ait des tribunaux, qu'il y ait des jurys et qu'il y ait une force de police, que cette force de police soit armée, que les brigands soient pas armés. Donc, sinon, ça
tout
marche
fait.
Pas.
Oui, c'est ça, c'est
ça
le gros problème.
Ça s'appelle la Sicile.
Oui, c'est le gros problème de certains libertariens, c'est que par principe et d'un point de vue philosophique, je suis tout à fait d'accord, ils disent que le droit prime la force. Sauf que pour faire appliquer le droit, faut bien qu'il y ait une force à un moment donné. C'est-à-dire que oui, on peut tout à fait dire.
Ça veut rien dire le droit prime la force. Ce qu'il faut dire, c'est que le droit est appliqué par une force qui est accepté par tout le monde.
Absolument.
C'est pas du tout la même chose.
Tout à fait.
C'est pas du tout la même chose. C'est comme tous les libertariens vous diront, ça sert à rien d'avoir des jardins publics, etc. Vous dites ça, ça sert à rien d'avoir des jardins publics, on pourrait bâtir des trucs dessus, c'est une propriété privée. Excellente idée, mais quand vous avez 3 niards à la maison un jeudi, un vendredi après-midi ou un samedi en vacances, et que vous savez plus quoi en foutre, s'il n'y a pas de jardin public, vous allez avoir des problèmes. Donc si vous voulez, il y a aussi quelque chose qui s'appelle une espèce d'abus. Volonté de vivre ensemble, même si le type est un bon à rien, qui ne peut exister que dans des systèmes qui ont le droit et la force.
Oui, tout à fait. Et alors, pareil, si on reprend quelques indicateurs, il y a notamment le taux de pauvreté. Alors, le taux de pauvreté, c'était très intéressant parce que quand Milei arrive au pouvoir...
Alors
il
ça,
est...
Le Monde était déchaîné sur les pauvretés qui allaient passer. Le Monde, je parle Le Monde, le journal de référence, là, vous savez,
tout à fait.
Qui est devenu un torchon.
Et quand Milei arrive au pouvoir, le taux de pauvreté, c'est à peu près 40%. Et dans un premier temps, il monte.
Mais évidemment.
Il monte rapidement au-dessus de 50%. Et alors, à ce moment-là, tout le monde ressort la statistique, regardez la pauvreté qui est en train d'exploser partout, machin. Bon, au final, elle retombe. D'abord, on reste autour de 50%, ensuite autour de 45%, puis 40%, puis 35%. Et aujourd'hui, on est à peu près au niveau de 30%, c'est-à-dire 10% de moins que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, avec plein de création d'emplois.
Vous remarquez que plus personne n'en parle à ce moment-là.
Oui.
Ce qui est très étonnant, si vous voulez, c'est le silence pesant qui pèse sur l'Argentine, alors que dans les 3 ou 4 premiers mois, tout le monde ne parlait que des échecs de M. Milei. Maintenant qu'il a l'air d'être plutôt en train de réussir, c'est le silence radio total de la presse française, quoi.
Complètement.
Parce que c'est ce qu'il faudrait faire en France, hein, c'est pas. La seule politique de Milei, c'est celle qu'il faudrait appliquer en France.
Ouais, tout à fait. Et ça, c'est tout à fait logique, ces chiffres-là par rapport au taux de chômage, puisque quand il arrive fin 2023, le taux de chômage est à peu près à 7%. Et avec l'application de toutes les réformes et puis tout un tas de licenciements d'emplois, notamment publics, forcément, bah, ça crée une augmentation de la pauvreté avec tout un tas de gens qui vivaient justement de toutes ces subsides de l'État. Mais enfin, ce taux de chômage, il est mesuré à 5,8% fin 2025. En mars 2026, il est à 5,4%, donc c'est encore une amélioration, avec une création depuis le début de 450 000 emplois privés. C'est quand même pas rien pour la population d'Argentine.
Ce que je veux dire, c'est exactement ce qu'on a trouvé au moment des réformes de Chrétien au Canada, de Thatcher. il y a un an et demi, ou même moins, où on en prend plein la gueule, tous les économistes de gauche se déchaînent en disant « vous voyez, ça échoue ». C'est exactement le contraire des programmes, si vous voulez, de relance. Oui. Ça va mieux pendant six mois et ensuite ça se détériore.
C'est politique de l'offre versus politique de la demande.
Voilà, c'est ça. Et donc, automatiquement, si vous voulez, ça réussit. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut d'abord nettoyer les écuries d'Augias, mais ça fait rien. La gauche, à ce moment-là, et même la droite qu'on a en France, c'est qu'ils disent que la gauche disait il y a 15 jours, quoi. C'est,
oui, c'est un peu ça.
Être de droite en France, c'est accepter ce que la gauche disait il y a 15 jours, quoi. Non,
ouais.
Et bien, à ce moment-là, vous ne les entendez plus. Et les gens me disent, qu'est-ce qu'il faut faire en France? Je leur dis toujours la même chose. C'est une politique qui a été appliquée des centaines de fois dans tous les pays du monde quand l'État était devenu obèse. Ça a toujours marché. Et toutes les autres politiques n'ont jamais marché. Donc, ouais. Si vous voulez, on est dans un monde curieux où vous regardez les réalités, vous dites ça, ça marche, ça ne marche pas. Et tout le monde se précipite vers ce qui ne marche pas.
Mmh.
On l'a vu encore au moment de ces élections en France, où les Français ont voté avec énormément à Paris, à Lyon, à Marseille. Ils ont voté pour les gars qui avaient foutu en l'air leur ville.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans notre démocratie qui fait... Qui sont ces crétins? Le problème, c'est qu'il y a 57% des gens en France qui reçoivent des subventions aujourd'hui, de l'État. Donc, la question, c'est comment vous...
C'est un vrai problème démocratique, oui, bien
sûr. Comment vous gérez si 57% décident de vous voler?
Qu'est-ce que vous faites d'un point de vue démocratique pour
l'empêcher
pour
de voler?
Ouais.
J'ai pas de solution. C'est le vrai problème. Si vous voulez, c'est où il y a le droit de propriété. Et c'est un truc constitutionnel auquel la majorité ne peut pas toucher. Ou bien c'est pas un truc constitutionnel. Vous augmentez les impôts, vous bloquez les prix, etc. Mmh. Et en fait, vous volez la propriété des gens.
Ouais.
Mais le vrai cœur du problème qu'on a, c'est on remonte toujours à cette question essentielle, c'est la propriété. Est-ce que vous avez le droit de me voler? Est-ce que disait Bastiat, il disait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a des gens qui se mettent en groupe pour organiser légalement le vol.
Oui, ouais, bah oui.
C'est
le principe de l'État, oui.
C'est le principe de l'État de transfert.
Oui.
C'est pas l'État, c'est le principe des transferts sociaux. Et bah oui, donc aujourd'hui, on est dans une situation où l'État a été organisé par des groupes sociaux pour voler les biens des autres.
Mmh.
Mais il n'y a pas d'autre mot, quoi.
Ouais.
Donc, ça ne peut pas marcher.
Ouais. Et le truc terrible, j'ai déjà vu ça dans quelques enquêtes d'opinion en France, c'est qu'il y a quand même une majorité de gens qui pensent que, effectivement, l'État dépense trop, qu'il y a trop d'impôts, etc., et qui sont d'accord sur le principe pour réduire les dépenses. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on décompose ces dépenses, alors on leur dit, est-ce que vous voulez réduire, je sais pas...
Toujours l'infirmière.
Voilà.
L'infirmière ou l'instituteur.
Voilà, l'infirmière, l'instituteur.
Qui font partie des 3,5. Hein.
Ou même si on leur dit, est-ce que vous voulez réduire les allocations familiales? Non.
Pourtant, Hollande l'a fait.
Oui.
La seule chose qu'il a jamais réduit, Hollande, c'est les allocations familiales. Et depuis, je sais pas si vous avez remarqué... La natalité s'écroule.
Nous avons encore une baisse de la natalité, effectivement, on a, si on propose une baisse du RSA, il y a plein de gens qui disent non. Si on propose une baisse des retraites, alors là, tout le monde dit non. Donc c'est toujours un peu problématique.
Le problème, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup plus de fonctionnaires à Paris qu'il y en a. Il y a deux fois plus de fonctionnaires à Paris qu'à Londres. Et Londres est deux fois plus grand.
Oui.
Donc vous vous dites, il y a peut-être dans l'administration locale, ce que je dis toujours à Auch, que je connais un peu, quand j'étais gamin, quand j'avais 18 ans, je vois le conseil général avait une demi-voiture et une demi-secrétaire qu'elle partageait avec, qui partait avec la mairie. Aujourd'hui, vous avez à la sortie d'Auch un palais, qui est le conseil général du Gers, dans lequel je ne sais pas combien de centaines de personnes qui travaillent, et je ne sais pas ce qu'ils foutent. Et je crois que dans le Gers, il y a maintenant plus d'employés du ministère de l'Agriculture qu'il n'y a de paysans. Donc vous dites, il y a peut-être...
Intéressant.
Il y a peut-être quelques coupes à faire là qui ne seraient peut-être pas complètement inutiles. Quoi.
Ouais.
Donc il faut tailler dans les trucs qui sont les doublons. Quoi. C'est pas... Et puis il y a aussi autre chose. Vous avez la mairie de Paris qui donne des très grosses subventions à des gens comme SOS Méditerranée.
Mmh.
Donc, vous avez créé des espèces d'institutions qui sont NGO, on appelle ça, OGN,
l'organisation
non gouvernementale, l'ONG, organisation non gouvernementale, qui sont mises à côté de l'État, qui reçoivent des subventions de l'État, ces subventions, c'est de l'argent public, et qui ensuite, il n'y a jamais aucune vérification qui est faite. Vous créez des espèces de rentes de situation, et vous vous rendez compte que vous avez créé toute une série de trucs que vous, dont vous ne pouvez pas soi-disant diminuer les revenus, parce que, n'est-ce pas, on ne va pas empêcher SOS Méditerranée d'aller ramasser les gars en Méditerranée. Mais en même temps, si vous voulez, ça n'a, c'est de l'argent public. Donc là, l'une des solutions, c'est qu'il n'y a aucune raison que l'argent public aille dans des trucs qui ne soient pas de l'ordre de l'État. Encore une fois, si vous voulez, vous dites à ce moment-là, si vous donnez un avantage fiscal à SOS Méditerranée, qu'ils ont d'ailleurs, et si vous vous financez auprès du public directement. Mais il ne peut pas y avoir des hommes politiques qui prennent de l'argent, de votre argent, le donnent à SOS Méditerranée, dans lequel ils mettent leur maîtresse, leur petite amie, leur fils, leur, et qui leur permet d'aller faire des croisières en Méditerranée quand il fait être mauvais en France.
C'est un système en plus de ça qui est assez circulaire. C'est-à-dire que c'est des organisations qui reçoivent des subventions.
C'est ce qu'on voit avec le petit là, Charles Machin là, qui fait les émissions sur la Radio Nationale, là, vous savez. Les espèces de machins qui coulent de ça vers des organisations du secteur privé comme M. Pigas, qui fait la moitié des programmes, et après ça prend l'argent qu'il a gagné pour faire des programmes de façon à continuer à faire élire la gauche. Vous voyez, je veux dire, mais ça s'appelle de l'abus de bien social, et celui qui le donne et celui qui le reçoit devraient tous les deux être en prison, quoi.
Oui, franchement, je vois pas en quoi ce n'est pas de la corruption. Si vous êtes, par exemple, parlementaire européen et que vous votez pour qu'il y ait, ou même commissaire européen, et que vous faites en sorte que, je sais pas, SOS Méditerranée reçoive davantage de subventions.
Et c'est jamais vérifié. Vous savez même pas si ça va.
Au
petit enfant qui est mort sur la plage.
Et derrière, eux-mêmes refont du lobbying et payent justement des parlementaires ou des commissaires.
Vous voyez par exemple quelque chose, vous remarquez qu'en ce moment, il y a des tas d'articles extrêmement négatifs sur Orban partout dans la presse.
Ouais.
Parce qu'il va y avoir des élections en Hongrie. Et on sait maintenant, parce qu'on a les preuves, que l'argent de la commission sert à payer les journaux qui vont dire du mal des ennemis de la commission. Donc vous savez, si on commence à voir sortir des tas d'articles sur Orban, c'est que la commission est en train de verser du pognon au Monde, au Figaro, etc., pour qu'ils disent du mal d'Orban, de façon à ce qu'ensuite les gens n'aillent pas voter pour Orban. Mais qu'est-ce qui donne le droit à la commission de filer du pognon à la presse ?
Bah, eux, ils n'ont pas l'impression d'avoir besoin d'un droit, je crois.
Voilà. Non, mais puisqu'on n'est plus dans un état de droit.
Oui.
Donc, je veux dire, par là, c'est les gens disent, mais où va-t-on couper ? Ben, je veux dire, on va couper à tous les endroits où ça ne fera pas mal. Ça ne fera pas mal aux petites gens. Ça fera mal à tous les profiteurs, à tous les brillants, à tous les salopards. Et ça, c'est pas. Ça, ils pousseront des cris d'orfraie en disant on est en train de supprimer des infirmières, mais c'est pas vrai. On est en train de supprimer des salopards. Vous n'imaginez pas aujourd'hui le coulage qu'il y a dans l'État français et dans tout ça. On le voit dans cette histoire de. J'écoute de temps en temps ce jeune Charles, là, il est très bien. C'est absolument. Mais n'importe quelle société qui ferait ça serait traîné dans le tribunal par ses actionnaires et le patron irait en prison, quoi.
Ouais.
Mais c'est inouï.
Oui, c'est très intéressant, effectivement, cette commission, effectivement, dont le rapporteur est Charles Lalonde.
Une toute petite lumière, mais ça doit être partout pareil, quoi. C'est l'histoire des, je ne sais plus combien, dizaines de millions de, il y a quoi, 4, 5, 6 millions de cartes vertes de plus qu'il y a de population en France, quoi.
Oui. Oui, ça aussi, en plus de ça, c'est quelque chose qui apparemment pourrait se régler de manière très simple.
Bah, avec un trombinoscope.
Ouais.
Moi, quand j'étais à Hong Kong, on avait une petite carte électronique, où, hop, je la mettais, j'avais pas besoin de passeport, je rentrais, je sortais. C'est très bien, cette carte.
Non, mais c'est très intéressant, parce qu'on parle de l'Argentine, et puis de temps en temps, on fait des allers-retours sur notre propre situation, et on voit qu'on est en train, justement, de prendre la même tangente.
Mais on y est en plein. On est normal. Ce qui est arrivé à l'Argentine, si vous voulez, c'est arrivé à l'Angleterre de Mme Thatcher, c'est arrivé au Canada de M. Lévesque. Et dès que ça se produit dans une société, il faut une réaction très violente. Et ce qui est intéressant, c'est que ça commençait à arriver avec le chairman d'avant, en Chine. Et puis il y a M. Xi qui est arrivé, et qu'il y avait partout, vous savez, on voyait des enfants arriver avec des Ferrari, les enfants des dignitaires du parti qui se baladaient avec des Ferrari rouges et tout. Le peuple aimait pas trop. Hein.
Ouais.
Et ce qui est marrant, c'est que ce qui est arrivé, maintenant, il n'y a plus de ferraille rouge. Hein. Ouais. Là, il y en a tout un tas qui ont été liquidés, qui ont été passés par les armes et tout. Et dans le fond, une démocratie ne peut pas vivre s'il y a trop, un peu de corruption, c'est raisonnable. Mais à partir du moment où la corruption devient institutionnalisée et met en cause l'État lui-même,
ouais,
c'est plus possible.
Oui, complètement. Et puis aussi,
ça peut plus être une démocratie.
Oui, bien sûr, c'est plus une démocratie à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on peut voter, mais on ne choisit pas véritablement pour qui on vote. On a le droit ou pas le droit de voter pour telle ou telle personne. Et ça, c'est organisé ensuite par tout un système politico-médiatique, quoi. Pareil, on parlait de la Chine il y a quelques temps, et effectivement, en Chine, ils font très attention à tout ce qui est corruption, etc. Et il y a tout un tas de petits éléments de démocratie locale qui existent, notamment tout un tas de systèmes de remontrance des citoyens vers certains élus locaux. Et le Parti communiste chinois sait très bien qu'il a tout intérêt à faire attention à ce que les gens vivent globalement plutôt bien et à ce qu'on fasse attention à eux, parce que bah, sinon, vu que c'est un système pas tout à fait démocratique, il prendrait un risque énorme sur le long terme.
C'est ça, c'est exactement ce qu'a fait Lee Kuan Yew à Singapour, c'est-à-dire qu'il a monté un État extraordinairement efficient, mais avec une dureté envers la corruption qui est tout à fait invraisemblable. Quoi. Mmh. Ça me paraît extrêmement sain. Quoi. C'est une façon de faire rentrer la vérité. Si vous êtes un homme payé par les impôts, quelque part, vous devez être d'une probité insoupçonnable. Quoi. Mmh. Parce que sinon, ça ne marche pas. Quoi.
Ouais.
Ce que disait Milton Friedman en rigolant, c'est quand c'est les fonctionnaires qui délivrent les permis d'importer, la première chose qu'un homme d'affaires conséquent doit faire, c'est acheter le fonctionnaire. Ben évidemment, c'est beaucoup moins cher que
ouais.
Que n'importe quoi d'autre. Donc, il faut pas, c'est la vieille truc de l'Église catholique, il y a celui qui commet un crime, c'est très mal, mais celui qui commet, dans le fond, qui cherche à corrompre le gars, c'est beaucoup plus grave que celui qui est corrompu. En fait, la corruption, c'est un problème, mais celui qui est tentateur de corruption, mmh. c'est celui-là qu'il faut flinguer en premier. Mmh. Moi, je trouve ça très bien.
Ouais, très intéressant. Et enfin, dernier élément, c'est le Sénat argentin qui a approuvé très récemment, en février, une loi de modernisation du travail. Donc ça, c'est une grosse victoire législative pour Javier Milei, vote soldé par 42 voix contre 28, après des mois et des mois de négociations assez tendues, des manifestations syndicales aussi. Et alors, cette réforme,
elle
modifie...
Il faut savoir que les syndicats, là-bas, c'est souvent des péronistes, c'est-à-dire, ils étaient vraiment au cœur de la corruption, cela. Alors là, c'est comme nos syndicats en France, si vous voulez, les syndicats de la fonction publique.
C'était complètement intriqué.
Ils sont financés par le budget, on ne réussit pas à savoir de combien ni pourquoi. Quoi.
Ouais, tout à fait. C'était complètement intriqué avec le système politique.
Péroniste.
Donc, ouais, tout à fait. Alors, cette réforme, elle modifie en profondeur le Code du travail de 1974. Les entreprises, à ce moment-là, peuvent maintenant désormais allonger la journée de travail jusqu'à 12 heures, à condition de ne pas dépasser 48 heures par semaine. Les heures supplémentaires peuvent être compensées par du repos plutôt que par un paiement majoré, les licenciements deviennent plus simples, moins coûteux, les employeurs verseront chaque mois une contribution à un fonds spécial qui servira à payer les futures indemnités. Donc voilà, c'est encore une fois quelque chose de très intéressant. Il faut dire que il y a eu pas mal de remontrances par rapport à cela. Le gouvernement s'est quand même défendu en disant que avant il y avait d'anciennes règles qui étaient tellement rigides que on ne pouvait pas employer des gens dans le circuit, on va dire, officiel, et ils estiment, les types du gouvernement, que 40% des gens ont été poussés dans l'économie informelle, donc sans contrat, sans protection sociale. Donc le fait aussi de diminuer le nombre de règles et de contrats, de protection, ça permet aussi de mettre davantage de gens dans le circuit officiel, de ne pas être justement complètement
et
dans le marché noir.
Ça,
quoi.
Bien sûr, et cette histoire, c'est ce que disait Hernando de Soto, dans son livre célèbre sur comment les nations s'enrichissent, il disait, si vous avez beaucoup de gens à l'extérieur du circuit officiel, c'est des entreprises qui ne pourront jamais se développer. C'est-à-dire que ce sera 5-6 personnes comme ouais. ça, avec un type, mais jamais elles ne pourront monter à l'échelle de la nation, si vous voulez. Elles doivent rester, puisqu'elles sont cachées, elles ne peuvent pas devenir trop grosses, quoi. Et donc, c'est la vérité, c'est qu'une façon de simplifier tout ça, de façon à ce que les entreprises de 5 personnes qui mériteraient d'être à 5 000 ouais. puissent le faire. Parce que ouais. sinon, vous restez toujours à 5.
Oui, tout à fait. Et puis je pense, je le dis de manière totalement empirique, mais j'imagine que ça doit être beaucoup plus aussi dans des secteurs où il n'y a pas énormément de valeur ajoutée, où il n'y a pas forcément beaucoup de croissance qui
Bah,
est créée.
l'immobilier en particulier,
Oui,
pareil,
voilà, des
bah,
trucs comme
ouais,
ça, des petits services à droite à gauche, effectivement. Et alors, demeure encore une fois cette question du peso argentin. Hein, c'est l'inflation qui doit continuer d'être contrôlée. C'est une assez grosse crainte pour tout ce qui est investisseur étranger, etc., qui veut toujours pas tellement investir en Argentine. Alors, il y avait eu un énorme rallye sur les actions en Argentine
c'était normal, c'était un cas.
en 2024. Et il y en a eu un petit là dernièrement lorsqu'il a remporté ses élections de mi-mandat. Mais ça s'est un petit peu stoppé depuis. Donc il y a encore
Mais d'abord,
quelques
le monde n'est pas
méfiances.
très favorable aux actions en ce moment.
Ouais.
Il y a ça, il y a quelques questions. Mais par exemple, l'Argentine a des réserves, paraît-il, absolument gigantesques de gaz de schiste. Et donc, de toute une série de matières premières qui pourront être exportées. Donc la question, c'est, et encore une fois, c'est la question du droit de propriété, c'est comment faire rentrer les capitaux étrangers, et sans vouloir trahir de secret, je peux vous garantir qu'il y a certainement suffisamment d'argent argentin à Miami pour financer toute l'Argentine jusqu'à la fin des temps. Donc le problème, c'est, ça va rentrer comme de l'argent américain, mais en fait, ce sera de l'argent argentin qui est là-bas depuis la nuit des temps. Donc, et tout ça sera réglé en même temps, c'est-à-dire si la monnaie se met à monter, les gens auront confiance dans le peso. Et ça va peut-être dépendre beaucoup, aussi curieux que ça paraisse, des élections qui vont se passer en octobre au Brésil. Parce que si le Brésil bascule, à ce moment, on peut dire que toute la zone aura basculé, le Chili, le Pérou, la Colombie, l'Argentine, le Brésil, et à ce moment-là, le Venezuela, il est en train de...
Venezuela, oui, on va voir ce que ça donne. Il y a aussi l'exemple du Salvador que j'aime beaucoup, qui est très intéressant. Alors là, qui est plus, on va dire, martial et policier qu'économique, bien qu'il a quand même quelques idées, le Bukele. Mais oui, effectivement, on est en train d'avoir une espèce de révolution libérale conservatrice
Dans
en
toute
Amérique
l'Amérique
du Sud
latine.
qui est assez intéressante. Il y a
Et ça
le
peut pas se
fils de
passer.
Bolsonaro au Brésil qui se présente pour contrer Lula. Donc ça va être intéressant de regarder ce qui se passe
Ce qui se
là-bas.
passe là, parce que si le Brésil bascule, à ce moment-là, on peut dire que le problème de l'Argentine, c'est que toute l'Amérique latine, j'avais un ami argentin qui est mort maintenant, mais qui était très sympathique. Diego von Busch, qui était une famille allemande en Argentine, mais il me disait, on est arrivé en 14, hein, on n'est pas arrivé en... On n'est pas arrivé en
C'était l'autre
45.
guerre, c'était pas
On n'est pas arrivé en 45. Donc il me le disait toujours avec son Diego. Non, 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 on fait partie des Argentins qui étaient venus avant. Bon. Alors il me disait un truc rigolo, il disait, le problème qu'a toujours eu l'Amérique latine, c'est que les gars qui allaient en Amérique du Nord, ils avaient l'idée de devenir américains et d'être... devenir des citoyens et de faire leur vie là-bas, et puis celle de leurs enfants, etc. Alors que la plupart des gens qui sont allés en Amérique latine, c'est des gars qui arrivaient d'Europe, d'Espagne, d'Italie, etc., qui avaient qu'une idée de piller le pays, plutôt partir vite vivre au pays en Allemagne ou en Italie. Et donc, il n'y avait pas d'ancrage de la population dans le système économique. Il y avait quand même beaucoup de gars qui avaient des vues à court terme, puis quand ils avaient du pognon, ils rentraient vite. Et donc... Si on réussit à ancrer la population maintenant de ces pays d'Amérique latine dans leur propre pays, en particulier les élites, on aura beaucoup gagné, quoi.
Ouais, tout à
Donc
fait.
ça paraît idiot, mais il va falloir un peu plus de patriotisme local, quoi.
Ouais. Bah, à cet égard, j'ai eu l'occasion personnellement de poser la question au fils de Bolsonaro sur comment il perçoit ce mouvement, on va dire, de droitisation des pays d'Amérique latine, et s'il connaissait personnellement Milei, qu'il avait des bons rapports avec lui. Et il m'a dit qu'il s'inscrivait totalement dans cette espèce de mouvement, qui a l'air d'être une sorte de mouvement de l'histoire, quoi, et qu'il connaissait bien Milei, qu'il s'entendait très bien avec lui. Donc, ma foi, plutôt
C'est
bonne
très
nouvelle.
important parce que, pour revenir à ce qui est notre souci constant, c'est par exemple, si ça marche et si le Brésil vote bien, il va falloir acheter des obligations longues d'Amérique latine. Ce que je veux dire, c'est que les taux d'intérêt sont à 8, 9, 10, 12 et qu'on va aller à 3, quoi.
Je rappelle, on n'en a pas trop reparlé depuis, mais l'an dernier, à peu près l'an dernier, nous avions parlé sur l'université de l'épargne des obligations brésiliennes.
Alors, bien fait, hein.
C'est difficile de s'en procurer, mais il me semble que c'est le meilleur marché obligataire avec le meilleur retour sur investissement depuis un an.
Oui, c'est tout à fait exact. Donc si vous voulez, c'est un petit peu, toute proportion gardée, ce qui se passe en Amérique latine, comme ce qui est arrivé avec dans les années 80, quand j'étais jeune et beau, là, c'était l'arrivée de Thatcher, de Reagan et de Jean-Paul II. Quoi. Si vous laissez clac, 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 et ça nous a donné 20 ans où le communisme est tombé, etc. Oui. Donc, je me dis que l'Amérique latine est peut-être à la veille d'un moment comme ça, quoi.
Oui, ce serait une bonne chose, c'est sûr.
Ce serait le type. On pourrait enfin pouvoir aller se barrer quand ils nous auront trop fait chier en France, quoi.
Oui, il y a de ça. Mais d'ailleurs, il y a de plus en plus hein, de types qui s'intéressent à l'Amérique du Sud. Alors là, on parle de l'Argentine parce qu'il y a eu un shift politique, donc c'est très intéressant. Mais si on prend un pays comme le Paraguay, par exemple, dont on parle jamais, le Paraguay est en soi beaucoup plus libéral encore que l'Argentine. Simplement, il n'y a pas eu de gros changements politiques récemment. Non. Du coup, c'est moins intéressant.
Puis la Colombie, elle est devenue. Et le Pérou a tourné, et puis le Mexique est pas trop mal géré. Donc, il y a quelque chose qui se passe, c'est que, ben voilà, il se passe quelque chose en Amérique latine, et pour l'instant, le règne du crétin en uniforme de gauche, c'est fini, quoi.
Oui, ça a l'air d'être fini, en tout cas, je l'espère fortement. C'était effectivement comme une espèce de deuxième vague du communisme, alors un communisme où il fait un peu plus beau, on peut fumer des cigares.
Le communisme au soleil, c'est moins, c'est un peu proximal.
Oui, c'est toujours plus agréable que le communisme dans la neige. Hein, oui, c'est clair. Goulag, ça donne envie à pas grand monde.
Voilà, donc si vous voulez, on a fait ce truc pour vous dire, un, ça marche, ça a marché. C'est loin d'être fini, mais en tout cas,
il y a encore des choses à faire, il y a certainement des choses à redire, etc. Mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt positif.
La liberté semble être une bonne idée. Et la deuxième chose, c'est que c'est un mouvement qui est en train de devenir très important en Amérique latine, où il y a quand même beaucoup de monde. Des pays très importants qui ont des matières premières et donc qui ont souvent une démographie convenable aussi. Donc, ça peut devenir un territoire d'investissement structurel.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est vraiment dommage quand on se dit il y a des pays avec des super matières premières, etc., et qui n'arrivent pas à s'en tirer économiquement. C'est vraiment un énorme gâchis. D'autant que nous-mêmes, on peut en profiter parce qu'on a tout intérêt à ce qu'il y ait une énorme création d'énergie dans ces pays-là pour pouvoir l'exporter et pour que nous, on puisse l'importer pour le moins cher possible. C'est aussi, on y a complètement intérêt, surtout quand on voit ce qui peut se passer dernièrement dans le détroit d'Ormuz. On a tout intérêt à ce qu'il y ait du pétrole qui soit fait en Argentine, au Brésil, au Venezuela, etc. Et voilà, il y a un côté vraiment dommage, mais j'ai l'impression que ces pays se disent, tiens, il y a le pays d'à côté qui est en train de se libéraliser, de se développer.
Donc on va faire du commerce avec lui,
on a intérêt à faire pareil.
Ce que disait De Gaulle, il avait dit, le Brésil, un pays d'avenir et qu'il restera, ce qui était un peu sévère, parce que... Et c'est vrai, on a toujours pensé que c'était des pays qui avaient un avenir brillant.
Oui, complètement, ça fait 50 ans que c'est un pays d'avenir.
Ils se tiraient des balles dans le pied. Or là, peut-être ils vont arrêter de se tirer des balles dans le pied.
Peut-être.
C'est quelque chose qu'il faut surveiller, en tout cas, parce que c'est... Et quelque part, c'est un peu notre civilisation. Ils sont un peu spéciaux.
C'est une espèce d'extension
de civilisation.
Ouais, complètement.
En Angleterre, États-Unis, c'est une extension de l'Angleterre. Là, c'est une extension du Portugal ou de l'Espagne, mais c'est des cousins, quoi.
Oui. Et on peut dire encore pour la Colombie, pour d'autres pays comme ça, il y a une démographie qui est plus particulière et plus locale depuis longtemps. Autant, typiquement, pour l'Argentine, c'est complètement européen d'un point de vue...
C'est ce qu'on dit, c'est des Italiens qui parlent l'espagnol, qui se prennent pour des Anglais... Ça marche moyen, quoi.
Oui, c'est un drôle de peuple, mais bon.
J'aimerais bien qu'ils deviennent maintenant simplement argentins, vous voyez ce que je veux dire. Mais on peut pas dire tout le mal parce qu'ils ont quand même une très bonne équipe de rugby.
Oui, une très bonne équipe de foot aussi, je peux pas dire le contraire.
Le foot, je sais pas.
Mais non, mais ils sont quand même champions du monde au dernier match.
Je sais, mais enfin, ça, c'est un sport sans importance.
Ouais, ouais, ouais. Bon, allez. Donc, voilà pour ravir Méli. Petit bilan, on aime bien en parler de temps en temps. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on en avait pas parlé.
Et qu'on en a marre de parler de l'Iran.
D'autant que, au moment où on fait cette émission, on semble se diriger vers peut-être une fin de conflit. En tout cas, on sent que Donald Trump en a un petit peu marre de ce bourbier, que le détroit d'Ormuz restera bloqué.
Ce que j'ai compris de ce qui se passe, c'est que Donald Trump parle déjà en Iran, mm-hmm. mais que les gardiens de la révolution, qui sont les SS locaux, sont pas au courant que Donald Trump parle.
Oui.
Alors, ça devient un peu compliqué de savoir. Donald Trump, il dit, moi j'ai parlé, les autres disent, non, il a pas parlé. Mm. Puis les autres, ils disent rien parce qu'ils ont pas envie de se faire couper la gorge.
C'est le problème avec un État aussi décentralisé du point de vue du pouvoir, c'est qu'on ne sait pas exactement à qui parler. Mais alors, il semblerait qu'il y a des négociations qui sont en cours et qui devraient se faire a priori au Pakistan, qui se propose d'être en quelque sorte l'État neutre entre les deux. J'ai vu qu'il y avait un avion américain diplomatique qui se dirigeait vers le Pakistan, donc peut-être que ça va se faire. En tout cas, j'ai l'impression que Trump
va aller au Pakistan après avoir largué quelques bombes sur l'Iran à tout hasard.
Exactement.
Puis ensuite, il ira se poser au Pakistan pour voir comment
atterrissage négocier. En douceur après largage de bombes. Tout à fait.
Très simple.
Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés.
Et s'il y a des choses dont vous voulez qu'on parle, à part de l'Iran ou de l'Argentine, vous nous le dites.
Tout à fait.